Nous continuons un petit peu notre exploration biblique pour élargir ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. Ce matin, nous nous sommes surtout concentrés sur Saint Jean, bien sûr. C'est par lui et lui seul, au début, que nous est venue explicitement la révélation du côté ouvert, d'où jaillit le sang et l'eau. Alors, en même temps, si nous disons que Saint Jean voit dans cet événement, finalement, au moins implicitement, l'accomplissement de toutes les Écritures, cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de passages de l'Écriture non seulement nous annoncent à l'avance, je parle là de l'Ancien Testament, l'événement du Golgotha et du côté ouvert, mais je dirais que par retour, ces passages nous éclairent aussi sur le mystère du côté ouvert. Comme je l'ai dit ce matin, Jean finalement est très sobre dans ce qu'il dit, surtout au chapitre 19. Et nous avons bien besoin de beaucoup de passages de l'Écriture pour entrer en fait dans la contemplation de Jean, pour comprendre un peu mieux avec lui ce que finalement il a vu, ce dont il témoigne, pour que vous aussi vous croyez, car cela est arrivé afin que l'Écriture s'accomplisse. Donc nous ne faisons pas une sorte d'exégèse pour faire bien, pour dire voilà, regardez comme c'est intéressant, il y a toutes ces cohérences internes, ces résonances et tout ça, c'est intéressant. Mais c'est surtout certains des textes dont je vais parfois ne faire que mentionner la référence peuvent vraiment être prises comme une sorte de lectio et même comme une lecture devant le Saint-Sacrement qui nous font entrer vraiment dans le mystère du cœur de Jésus. Alors en fait, l'Écriture est si riche, soit en allusion, soit en approfondissement par rapport au cœur de Jésus, qu'il faut le classer par thème, et dans le peu de temps que nous avons ce matin, je donne priorité au thème de l'eau, puisque ça a été ce qui nous a été donné ce matin, déjà par la parole dans la louange, et puis aussi à cause de Jean 19, à cause de l'eau qui jaillit du côté. Donc si on ne se tient ne serait-ce qu'au thème de l'eau, déjà il y a une grande richesse dans des passages divers d'Écriture. Alors je prends pour le mentionner le chapitre 2 par exemple du livre de la Genèse. Dans le jardin d'Éden, alors que l'homme vient d'être créé avec la glaise du sol et qu'on a fait mention de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin et qui est distincte de l'arbre, bien sûr, de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, donc, qui est au milieu du jardin et au milieu de nombreux autres arbres qui sont bons, beaux à voir et dont les fruits sont vraiment désirables. Alors, il est question de ce fleuve qui sort d'Éden et qui, se divisant en quatre bras, arrose le jardin, la terre entière. Je vais lire le passage exactement comme il est, au chapitre donc 2 de la Genèse. Et c'est tout de suite après la mention de l'arbre de vie. Chapitre 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait pour former quatre bras. Puis vient la liste, enfin la mention des noms des quatre bras. Simplement pour que vous voyez, c'est pour donner un petit avant-goût de la richesse des Écritures prophétiques, où on voit vraiment que la cohérence n'a pu être donnée que par l'Esprit-Saint, qui dépasse complètement les auteurs. Un des bras s'appelle le Pishon, il contourne tout le pays de Havila où il y a de l'or. L'or de ce pays est pur, et là se trouvent le bdellium et la pierre de cornaline. Déjà, nous avons comme en filigrane ce qui va être la substance de la Jérusalem céleste avec les 12 portes, les pierres précieuses, et puis la cité qui est que de l'or pur, tellement pur qu'elle est comme du cristal. Enfin, vous voyez, il y a déjà une sorte de cohérence qui se tient. Mais ce qui nous importe ici, c'est le fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin. Et alors là, tout de suite, je vous lis ce que dit Saint Bonaventure, XIIIe siècle. debout, toi qui es aimé du Christ.